Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Une libération qui encourage à l'espérance, un beau cadeau de fin d'année. Une fois n'est pas coutume, nous commencerons cette émission par une bonne nouvelle. Mais nous verrons aussi que de nombreux foyers de violence persistent dans le monde, notamment en Syrie et en République démocratique du Congo. Dans son message pour la 47e journée mondiale de la paix, le pape François nous invite à dépasser nos propres limites et à promouvoir la culture de la rencontre pour réaliser un monde plus juste et pacifique. Une bonne nouvelle aura donc marqué la fin de l'année 2013. Le père Georges Vandenbosch, enlevé au Cameroun mi-novembre, a été libéré. Il a été retrouvé mardi matin en bonne santé. Ce prêtre catholique français, âgé de 42 ans, avait été kidnappé dans l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria. Quelques jours plus tard, le groupe islamiste armé nigérian Boko Haram avait revendiqué cette prise d'otage. En annonçant la nouvelle, François Hollande a rappelé que 6 Français restaient encore retenus en otage au Mali et en Syrie. Nous avons recueilli la réaction du père Jean Forjat, responsable de l'accompagnement des prêtres Fidei Donum, directeur adjoint du service national pour la mission universelle de l'Église.
C'est clair que c'est un immense cadeau de bonne année, un immense cadeau qui nous est donné en cette fin d'année 2013, qui a été marqué et qui reste marqué par des événements douloureux, des épreuves que connaissent beaucoup de nos contemporains, en particulier sur le continent africain, mais pas seulement. Eh bien, j'ai envie de dire, au milieu de toutes ces épreuves, il y a quand même cette lueur, cette lumière. Voilà, c'est la lumière de Noël qui se prolonge à travers cette nouvelle. C'est quand même formidable.
Vous êtes responsable de l'accompagnement des prêtres Fidei Donum. Vous avez vous-même été missionnaire en Afrique. Un prêtre en mission à l'étranger, et en particulier dans des zones sensibles, n'est pas un expatrié comme les autres.
Oui, j'ai pour habitude de dire cela. Ça n'est pas un expatrié comme les autres. C'est quelqu'un qui a fait le choix de vivre, d'accepter, de répondre à l'appel pour cette mission au loin. Et c'est un choix, j'ai envie de dire, qui est un peu exclusif. C'est-à-dire que je pense que la mission du prêtre, de la religieuse qui part, est une mission au service d'une population, d'un peuple, de communauté. Et c'est un service exclusif. On a pour habitude de dire, et c'était la situation du père Georges Vandenbosch, c'était un prêtre Fidei Donum. Ça veut dire qu'il est parti pour répondre à un appel au titre du don de la foi. Et moi, je dis souvent que le don de la foi, pour nous qui partons, c'est aussi le don de la vie.
Après l'enlèvement du père Vandenbosch, donc dans le nord du Cameroun, 2 autres prêtres ont pris la décision de rester sur place malgré les risques. Comment l'Église accompagne-t-elle une telle décision ?
Eh bien, l'Église approuve d'abord cette décision. Elle ne va pas contre cette décision. L'Église recommande à ses missionnaires qui sont loin d'être prudents, mais elle les laisse totalement libres du choix de rester ou de partir. Donc, dans la mesure où ils choisissent de rester, et c'était le cas des 2 prêtres, des 2 autres prêtres Fidei Donum qui sont sur ce secteur du Nord Cameroun, eh bien, on reste proche d'eux, en relation avec eux, mais c'est eux qui ont fait ce choix de rester. Et donc, nous l'accueillons, nous essayons de le gérer avec eux au mieux, en leur recommandant tout de même, bien sûr, une certaine prudence. Il ne s'agit pas de faire de la provocation ou de se jeter dans la gueule du loup, mais en même temps, si on est au service d'une population qui souffre, qui a des problèmes, c'est pas au moment où ça va mal qu'on va abandonner ces gens. Donc, voilà, l'Église continue d'accompagner ces personnes. Et personnellement, moi, par rapport à ma mission, j'étais en lien avec ces prêtres.
Contrairement à la plupart des expatriés, les religieux ne sont pas obligés d'évacuer des zones sensibles lorsque les autorités, lorsque l'Élysée en l'occurrence, le demande. Y a-t-il eu dans le passé des tensions face à certains choix de religieux qui ont décidé de rester malgré les dangers ?
Non, on ne peut pas dire qu'il y a des tensions. D'abord, je comprends fort bien les grandes recommandations de prudence, voire même certaines évacuations, certaines demandes de départ. En même temps, je pense qu'il faut que nos autorités comprennent, et elles le comprennent, mais en même temps, elles font aussi leur travail, comprennent que la situation des missionnaires n'est pas la même. Il s'agit d'une solidarité totale avec les populations avec lesquelles ils vivent, et donc, au titre du don de la foi, du don de la vie, les missionnaires font le choix de rester. Vous savez, c'est tout le dilemme des moines de Tibérine, hein. Ces moines qui sont restés et qui ont assumé leur choix de rester. Nous savons très bien là où ça les a menés. Alors je pense que les autorités françaises, hein, qui recommandent, et elles ne peuvent que recommander cette prudence, comprennent aussi que la situation des prêtres et des religieuses qui sont là-bas est différente forcément de celle des gens qui passent, des touristes ou des gens qui travaillent pour une société. Et ces personnes ont une famille souvent, donc voilà, ces gens-là ne peuvent pas forcément rester. Et ces gens-là partent, et ils ont sans doute raison de partir, mais les missionnaires, religieux et prêtres, c'est une situation qui est différente.
Le père Jean Forgeat au micro d'Hélène Destombes. Interrogé par l'agence de presse Immédia, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège s'est réjoui de cette libération. Le père Federico Lombardi a également invité à prier pour les autres personnes retenues injustement en otage à travers le monde. À la veille de la Journée mondiale de la paix, nous souhaitons, a-t-il déclaré, que soit dépassée toute forme de violence, de haine et de conflit dans les régions tourmentées de l'Afrique comme ailleurs dans le monde. Dans quelques heures au Vatican, le pape François présidera une concélébration eucharistique dans la basilique Saint-Pierre en la solennité de Marie, Mère de Dieu, fêtée le jour de l'an. Vous pourrez suivre cette liturgie en direct avec commentaires en français sur le player de Radio Vatican à partir de 9h50 en audio et vidéo à l'adresse www.radiovaticana.va. Et si vous habitez Rome, vous pouvez également l'écouter en modulation de fréquence sur 103,8 MHz. Après la messe, le Saint-Père présidera la prière de l'Angélus. Ce mercredi 1er janvier 2014, on célèbre également la 47e journée mondiale de la paix sur le thème « Fraternité, fondement et chemin de la paix ». Le bien de la fraternité peut vaincre l'expansion de la mondialisation de l'indifférence, à laquelle le pape François a plusieurs fois fait allusion. Retour sur l'essentiel de ce texte avec Jean-Baptiste Cocagne.
On peut gaspiller son temps à ériger des murs et à tracer des frontières, ou bien, au contraire, choisir de vivre en les franchissant. On peut alors découvrir que la vie est magnifique de l'autre côté du mur. C'est le cœur de ce 47e message pour la paix qui porte la marque du pape François, une invitation à dépasser les barrières. Le Saint-Père rappelle que les frontières ne parviennent pas à empêcher les autres d'entrer dans nos propriétés ou nos nations. En revanche, elles ne servent qu'à nous enfermer. Les limites dont parle le pape, ce sont les inégalités, le profit, la corruption, les malversations, la mauvaise foi, l'égoïsme, le repli sur soi et sur ses propres certitudes, le désir de les imposer aux autres. Dans notre culture du bien-être, les autres sont perçus comme des étrangers ou des antagonistes plutôt que comme des voisins. Les pauvres sont souvent considérés comme un fardeau ou sont, dans le meilleur des cas, l'objet de compassion. Le pape fustige les nouvelles idéologies caractérisées par un individualisme diffus, un égocentrisme et un consumérisme latent qui affaiblissent les liens sociaux. Et pourtant, les cris d'alarme avaient été lancés dès les années 1970 sur les risques économiques et écologiques liés à l'économie de marché et au rythme effréné de consommation adopté par les sociétés opulentes. Nous devons repenser nos modèles de développement économique et changer nos modes de vie. Cela demande du courage, reconnaît le pape François. Depuis Caïn et Abel, les hommes et les femmes ont du mal à vivre ensemble, à prendre soin les uns des autres, et ce, au sein même des familles. Le Saint-Père insiste pourtant sur le devoir de solidarité, de justice sociale et de charité universelle.
Ce 1er janvier à Rome, pour la 12e année consécutive, la communauté catholique Sant'Egidio organise une marche pour la paix à partir de 10h30 le long de l'avenue de la Conciliazione jusqu'à la place Saint-Pierre. Une soixantaine d'organisations ont adhéré à cette initiative. Les participants assisteront à l'Angélus du pape. D'autres initiatives, marches et manifestations populaires pour la paix sont prévues dans quelques 700 villes dans 78 pays du monde, toujours à l'initiative de Sant'Egidio. Des milliers de chrétiens, mais pas seulement, se retrouveront pour dire ensemble que la guerre n'est jamais une issue inévitable et que la paix est toujours possible. Sant'Egidio recense à l'heure actuelle 17 conflits ouverts, Syrie, Centrafrique, Sud-Soudan, Nigeria, Irak, Afghanistan. La violence touche de nombreuses régions de notre planète et la paix doit absolument figurer sur l'agenda mondial. Parmi les conflits qui ensanglantent la planète, la République démocratique du Congo est revenue sur le devant de la scène en cette fin d'année. Plus de 100 personnes sont mortes dans les attaques qui ont ciblé lundi principalement Kinshasa, la capitale, et la deuxième ville du pays, Lubumbashi. À Kinshasa, des attaques simultanées ont visé l'aéroport international, l'état-major général et la télévision publique. Une partie des assaillants se sont clairement réclamés du pasteur Mutombo, qui fut candidat à la présidentielle de 2006, remportée par Joseph Kabila. Dans l'Est du pays, le Nord Kivu a connu une année mouvementée en 2013. Nous avons interrogé Mgr Théophile Kaboy, l'évêque de Goma.
On a passé une année plutôt lourde, plutôt difficile. Les gens n'avaient pas la joie et ils ont beaucoup souffert. Aujourd'hui, le climat généralisé est plutôt des soulagements et des grandes joies. Un soulagement comme pour dire « Dieu ne nous a pas abandonnés ». Il faut vraiment reprendre la vie, non seulement dans les zones jadis sous le contrôle de M23, mais sur toute l'étendue de la RD Congo, à cause de la défaite précisément des éléments donc de la rébellion du M23, qui était dans l'ensemble la plus dure, la plus difficile à démanteler.
Comment on ressent votre diocèse de cette période?
Je viens de faire une tournée de la région. J'ai 5 paroisses qui étaient concernées par toutes ces difficultés, mais je constatais partout une grande pauvreté matérielle, mais des visages garnis par une joie immense. Les gens disaient « l'enfer, c'est fini ». L'année de la foi pour nous a été comme une période de purification. Il y a eu beaucoup de prières, de jeûnes, d'adorations, de pèlerinages. Alors le retour de la joie et la fin de la guerre ont été mis sur le compte de l'intervention de Notre-Dame du Rosaire.
Cette période de guerre a été difficile pour votre travail d'évêque.
J'avais réduit sensiblement mes visites pastorales parce que à chaque fois que je devais aller dans les territoires contrôlés par les rebelles, il fallait demander des autorisations que j'ai eues assez facilement, vous savez. Mais les prêtres pouvaient se déplacer, mais il y avait des barrières un peu partout, on arrêtait, des taxes, ça fait que elle-même avait réduit le mouvement vers l'évêché, mais alors je me contentais de faire des écrits d'encouragement, de redoubler en prière, en adoration, en acte de piété, et de ne pas s'immiscer dans des histoires politiques. Dans les paroisses, nous invitons les chrétiens qui sont là à décrire d'abord ce qui s'est passé, à éviter cette fameuse chasse à la sorcière. Mais des climats comme ceci, on en profite pour régler des comptes qui n'ont rien à faire avec la guerre. Mais là, vraiment, nous essayons, dans des rencontres, des prières et des communautés, nous disons, voilà, nous venons de vivre ce drame, cette tragédie. Il faut maintenant raccommoder tout ce qu'il peut y avoir. Ce ne sera pas facile parce que, vous savez, j'ai dit toujours qu'il est plus facile de construire un édifice démoli que de reconstruire un homme qui est démoli. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de patience, mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, on arrivera à quelque chose.
L'évêque de Goma en RDC, interrogé par Antonino Gallofaro. Le Vatican accueillera à la mi-janvier une conférence sur la Syrie intitulée « Pouvons-nous demeurer indifférents ?» Elle se déroulera le lundi 13 au siège de l'Académie pontificale des sciences, c'est-à-dire quelques jours avant les pourparlers devant rassembler des membres du gouvernement syrien et des représentants de l'opposition le 22 janvier à Genève. Objectif principal, obtenir un cessez-le-feu pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. 8 experts internationaux ont été invités à y participer. Parmi eux, l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, l'ex-vice-président égyptien Mohamed El Baradei et le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Cette journée de travail se propose également de favoriser la protection des chrétiens dans les pays du Moyen-Orient. L'Académie pontificale des sciences insiste sur l'urgence de mettre fin à la persécution des chrétiens et d'encourager le dialogue interreligieux. On discutera également de la formation d'un gouvernement de transition unifié qui serait chargé d'organiser des élections. Enfin, la question du trafic des êtres humains et de la prostitution dans ce pays ravagé par la guerre sera également abordée. L'Académie a préparé un document de travail de 8 pages. Ce texte salue les efforts déployés par le président russe Vladimir Poutine pour empêcher l'offensive militaire souhaitée par les États-Unis, mais adresse des reproches à ceux qui ont fourni des armes sophistiquées au régime ainsi qu'aux pays qui ont financé les rebelles. Je vous rappelle que samedi, une délégation du gouvernement syrien a été reçue au Vatican par le secrétaire d'État Mgr Pietro Parolin et par le secrétaire pour les rapports avec les États Mgr Dominique Mamberti. Nous donnons la parole à Michel German, théologien et proviseur adjoint d'un établissement protestant à Strasbourg. Pour lui, 2013 restera l'année des nombreux points d'interrogation.
C'est vrai que le mot qui vient pourrait être crise, mais crise plus diffus. On n'est pas, comme en 2008, en lien avec un système bancaire qui s'écroule, mais crise peut-être aussi au niveau des images et du côté des médias. C'est-à-dire qu'on a cessé d'entendre des fermetures, des situations économiques difficiles, et c'est bien la réalité. Mais où en est notre regard? Et aujourd'hui, quel est le regard d'initiative? 2013 a été occupé par une série d'initiatives et d'inquiétudes qui ont été projetées, qui créent une situation anxiogène. Je pense aux jeunes, aux jeunes lycéens, mais je pense aussi aux parents. Et quand je les rencontre quotidiennement, c'est aussi cette part d'expression. Et il manque peut-être ce souffle de se dire, il y a ici telle entreprise, il y a ici telle initiative, telle solidarité qui se sont levées et qui ont montré quelque chose. Donc aujourd'hui, je dirais que 2013, c'est des grands points d'interrogation qui nous ont été lancés et il manquait peut-être ce regard qui donnait ce souffle et ces espérances.
Et qu'est-ce que vous souhaitez pour 2014 ?
Que 2014 soit le temps et les moments de rencontre, qu'on puisse avec lucidité peut-être aussi voir ce qui se passe. Est-ce que 2014 pourrait devenir l'espace de rencontre, l'espace de questions que... L'économie n'est pas tout et que l'économie doit être au service de l'homme. Mais comment trouver aussi une efficacité? Quand je pense à Lampedusa, comment avoir une efficacité des gens qu'on accueille et qui sont dans une situation administrative pendant un an et qui pendant un an peuvent effectivement développer toutes les espérances en Europe? Comment ne pas répondre directement que on ne peut pas tout accueillir et tous, mais en même temps trouver des solutions, comment développer des initiatives, et on en parle trop peu, des initiatives qui se font dans des pays du Sud, dans les pays d'Afrique centrale. Se pose aussi la question des pays déstabilisés, de la Libye, puisque c'est bien à travers la Libye que des choses aussi concrètes se passent. Donc c'est-à-dire comment peut-être gérer ensemble ces espaces internationaux. Mais là, il y a une responsabilité des politiques, il y a une place à prendre des politiques. Et je dirais, elle est grande et elle n'est pas encore prise. Mais 2014, soyons lucides et soyons efficaces à travers des actions qui puissent être des actions phares.
Le théologien protestant Michel German, interrogé par Audrey Radondi. Toujours en France, une rencontre sur les religions dans l'espace public sera organisée du 27 au 30 janvier par les jésuites du CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale de la Compagnie de Jésus. Cette rencontre annuelle se penchera sur la sécularisation de la société et sur ses conséquences, en particulier la privatisation et la diversification des croyances. Actuellement, les institutions religieuses s'interrogent sur leur capacité à transmettre leurs traditions, alors que les médias sont portés à mettre surtout en lumière ce qui est nouveau, voire choquant, comme la pédophilie dans l'Église catholique, et relaie volontiers une conception de la laïcité selon laquelle le religieux doit rester hors du champ public. Le CERAS note que paradoxalement, des questions de vie personnelle, longtemps réservées au domaine privé, arrivent sur la place publique grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui permettent aux individus d'intervenir dans le débat public. Par ailleurs, la visibilité croissante de l'islam, en particulier à travers des revendications identitaires, suscite de nouveaux débats autour de la laïcité, mais aussi une islamophobie systématique. L'objectif de la prochaine rencontre est de réfléchir aux apports de chacune des grandes religions dans l'espace public et sur leur mode de participation au débat commun. Il y a 9 ans, le 30 décembre 2004, un terrible incendie ravageait une discothèque de Buenos Aires, faisant 194 morts et plusieurs centaines de blessés. La plupart des victimes furent asphyxiées par les fumées toxiques déclenchées par un feu de Bengale lancé sur des draperies accrochées au plafond. La discothèque recevait près du triple du public permis et toutes les portes de secours avaient été bloquées. À l'occasion de l'anniversaire de cette tragédie, le pape François, ancien archevêque de la capitale argentine, a écrit une lettre en mémoire des jeunes victimes. Dans cette lettre, adressé au président de la Commission épiscopale pour la pastorale sociale, il réaffirme sa proximité avec les familles. Il les exhorte à ne pas rester seuls et à continuer de chercher la compagnie des autres. Cette lettre a été lue lundi pendant la messe célébrée dans la cathédrale de Buenos Aires. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2014 sous le signe de la fraternité. Restez fidèles à Radio Vatican et sur la toile à radiovaticana.va.